Cet acte politique se passe à l'inverse du caractère des deux nations. Le parti radical eut son candidat, M. de Chavoncourt, se présenta. Puis vint Albert, qui fut accusé par les radicaux et par le comité Chavoncourt d'être un homme de la droite sans transaction, un double de Berryer. Le ministère avait son candidat, un homme sacrifié, qui servait à masser les votes ministériels purs. Les voix ainsi divisées n'arrivèrent à aucun résultat. Le candidat républicain eut 20 voix, le ministère en réunit 50, Albert en compta 70, M. de Chavoncourt en obtint 67. Mais la perfide préfecture avait fait voter pour Albert 30 de ses voix les plus dévouées, afin d'abuser son antagoniste. Les voix de M. de Chavoncourt, réunies aux 80 voix réelles de la préfecture, devenaient maîtresses de l'élection pour peu que le préfet sût détacher quelques voix du parti radical. 160 voix manquaient, les voix de M. de Grancey et les voix légitimistes. Une réunion préparatoire est aux élections ce qu'est au théâtre une répétition générale, ce qu'il y a de plus trompeur au monde. Albert Savarus revint chez lui, faisant bonne contenance, mais mourant. Il avait eu l'esprit, le génie ou le bonheur de conquérir dans ses 15 derniers jours 2 hommes dévoués, le beau-père de Girardet et un vieux négociant très fin, chez qui l'envoya M. de Grancey. Ces 2 braves gens, devenus ses espions, semblaient être les plus ardents ennemis de Savarus dans les camps opposés. Sur la fin de la séance préparatoire, ils apprirent à Savarus par l'intermédiaire de M. Boucher que 30 voix inconnues faisaient contre lui, dans son parti, le métier qu'il faisait pour son compte chez les autres. Un criminel qui marche au supplice ne souffre pas ce qu'Albert souffrit en revenant chez lui de la salle où son sort s'était joué. L'amoureuse au désespoir ne voulut être accompagnée de personne. Il marcha seul par les rues, entre 11 heures et minuit. À 1 heure du matin, Albert, que depuis 3 jours le sommeil ne visitait plus, était assis dans sa bibliothèque, sur un fauteuil à la Voltaire, la tête pâle comme s'il allait expirer, les mains pendantes, dans une pose d'abandon digne de la Magdeleine. Des larmes roulaient entre ses longs cils, de ces larmes qui mouillent les yeux et qui ne roulent pas sur les joues. La pensée les boit, le feu de l'âme les dévore. Seul, il pouvait pleurer. Il aperçut alors sous le kiosque une forme blanche qui lui rappela Francesca. « Et voici 3 mois que je n'ai reçu de lettre d'elle. Que devient-elle ? Je suis resté 2 mois sans lui rien écrire, mais je l'ai prévenue. Est-elle malade ? Oh, mon amour, oh, ma vie, sauras-tu jamais ce que j'ai souffert ? Quelle fatale organisation est la mienne ? Ai-je un anévrisme ? Se demanda-t-il, en sentant son cœur qui battait si violemment, que les pulsations retentissaient dans le silence, comme si de légers grains de sable eussent frappé sur une grosse caisse. En ce moment, 3 coups discrets retentirent à la porte d'Albert. Il alla promptement ouvrir et faillit se trouver mal de joie en voyant au vicaire général un air gai, l'air du triomphe. Il saisit l'abbé de Grancey sans lui dire un mot, le tint dans ses bras, le serra, laissant aller sa tête sur l'épaule de ce vieillard. Et il redevint enfant. Il pleura comme il avait pleuré quand il sut que Francesca Soderini était mariée. Il ne laissa voir sa faiblesse qu'à ce prêtre sur le visage de qui brillaient les lueurs d'une espérance. Le prêtre avait été sublime, et aussi fin que sublime. « Pardon, cher abbé, mais vous êtes venu dans un de ces moments suprêmes où l'homme disparaît, car ne me croyez pas un ambitieux vulgaire. » « Oui, je le sais, reprit l'abbé, vous avez écrit l'ambitieux par amour. » « Eh, mon enfant, c'est un désespoir d'amoureux qui m'a fait prêtre, en 1786, à 22 ans. En 1788, j'étais curé. Je sais la vie. J'ai déjà refusé 3 évêchés. Je veux mourir à Besançon. »
Venez la voir, s'écria Savarus en prenant la bougie et menant l'abbé dans le cabinet magnifique où se trouvait le portrait de la duchesse d'Argaiolo qui l'éclaira.
« C'est une de ces femmes qui sont faites pour régner, » dit le vicaire en comprenant ce qu'Albert lui témoignait d'affection par une muette confidence.
« Mais il y a bien de la fierté sur ce front. Il est implacable. Elle ne pardonnerait pas une injure. C'est un archange Michel, l'ange des exécutions, l'ange inflexible.
Tout ou rien est la devise de ses caractères angéliques. »
Il y a je ne sais quoi de divinement sauvage dans cette tête.
Vous l'avez bien deviné, s'écria Savarus. Mais, mon cher abbé, voici plus de 12 ans qu'elle règne sur ma vie, et je n'ai pas une pensée à me reprocher.
Ah, si vous en aviez autant fait pour Dieu, dit naïvement l'abbé.
Parlons de vos affaires. Voici 10 jours que je travaille pour vous. Si vous êtes un vrai politique, vous suivrez mes conseils cette fois-ci.
Vous n'en seriez pas où vous en êtes si vous étiez allé, quand je vous le disais, à l'hôtel de Rupt.
Mais vous irez demain, je vous y présente le soir.
La terre des Rouxey est menacée, il faut plaider dans 2 jours, l'élection ne se fera pas avant 3 jours.
On aura soin de ne pas avoir fini de constituer le bureau le premier jour, nous aurons plusieurs scrutins, et vous arriverez par un ballottage.
Et comment?
En gagnant le procès des Rouxey, vous aurez 80 voix légitimistes.
Ajoutez-les aux 30 voix dont je dispose, nous arrivons à 110.
Or, comme il vous en restera 20 du comité Boucher, vous en posséderez en tout 130.
Eh bien, dit Albert, il en faut 75 de plus.
Oui, dit le prêtre, car tout le reste est au ministère.
Mais, mon enfant, vous avez à vous 200 voix. Et la préfecture n'en a que 180.
J'ai 200 voix, dit Albert, qui demeura stupide d'étonnement après s'être dressé sur ses pieds, comme poussé par un ressort.
Vous avez les voix de monsieur de Chavoncourt, reprit l'abbé.
Et comment, dit Albert?
Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt.
Jamais.
Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt, répéta froidement le prêtre.
« Mais voyez, elle est implacable, » dit Albert en montrant Francesca.
« Vous épousez mademoiselle de Chevoncourt, » répéta froidement le prêtre pour la 3e fois.
Cette fois, Albert comprit.
Le vicaire général ne voulait pas tremper dans le plan qui souriait enfin à ce politique au désespoir.
Une parole de plus eût compromis la dignité, l'honnêteté du prêtre.
« Vous trouverez demain à l'hôtel de Rupt Madame de Chavoncourt et sa seconde fille. Vous la remercierez de ce qu'elle doit faire pour vous. Vous lui direz que votre reconnaissance est sans borne. Enfin, vous lui appartenez corps et âme. Votre avenir est désormais celui de sa famille. Vous êtes désintéressé. Vous avez une si grande confiance en vous que vous regardez une nomination de député comme une dot suffisante. »
Vous aurez un combat avec Madame de Chavoncourt. Elle voudra votre parole.
Cette soirée, mon fils, est tout votre avenir.
Mais sachez-le, je ne suis pour rien là-dedans.
Moi, je ne suis coupable que des voix légitimistes. Je vous ai conquis Madame de Vatteville, et c'est toute l'aristocratie de Besançon. Amédée de Soulas et Vauchel, qui voteront pour vous, ont entraîné la jeunesse, Madame de Vatteville vous aura les vieillards.
Quant à mes voix, elles sont infaillibles.
Qui donc a tourné Madame de Chavoncourt ? Demanda Savarus.
Ne me questionnez pas, répondit l'abbé. Monsieur de Chavoncourt, qui a 3 filles à marier, est incapable d'augmenter sa fortune.
Si Vauchel épouse la première sans dot, à cause de la vieille tante qui finance au contrat, que faire des 2 autres?
Sidonie a 16 ans, et vous avez des trésors dans votre ambition.
Quelqu'un a dit à Madame de Chavoncourt qu'il valait mieux marier sa fille que d'envoyer son mari manger de l'argent à Paris.
Ce quelqu'un mène Madame de Chavoncourt, et Madame de Chavoncourt mène son mari.
Assez, cher abbé, je comprends. Une fois nommé député, j'ai la fortune de quelqu'un à faire, et en la faisant splendide, je serai dégagé de ma parole. Vous avez en moi un fils, un homme qui vous devra son bonheur. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter une si véritable amitié? Vous avez fait triompher le chapitre, dit en souriant le vicaire général. Maintenant, gardez le secret du tombeau sur tout ceci. Nous ne sommes rien, nous ne faisons rien. Si l'on nous savait nous mêlant d'élections, nous serions mangés tout crus par les puritains de la gauche qui font pis, et blâmés par quelques-uns des nôtres qui veulent tout. Madame de Chavoncourt ne se doute pas de ma participation dans tout ceci. Je ne me suis pas fié qu'à Madame de Watteville, sur qui nous pouvons compter comme sur nous-mêmes. Je vous amènerai la duchesse pour que vous nous bénissiez, s'écria l'ambitieux. Après avoir reconduit le vieux prêtre, Albert se coucha dans les langes du pouvoir. À 9 heures du soir, le lendemain, comme chacun peut se l'imaginer, les salons de Madame la baronne de Watteville étaient remplis par l'aristocratie byzantine, convoquée extraordinairement. On y discutait l'exception d'aller aux élections pour faire plaisir à la fille des deux Ruptes. On savait que l'ancien maître des requêtes, le secrétaire d'un des plus fidèles ministres de la branche aînée, allait être introduit. Madame de Chavoncourt était venue avec sa seconde fille, Sidonie, mise divinement bien, tandis que l'aînée, sûre de son prétendu, n'avait recours à aucun artifice de toilette. Ces petites choses s'observent en province. L'abbé de Grancey montrait sa belle tête fine, de groupe en groupe, écoutant, n'ayant l'air de se mêler de rien, mais disant de ces mots incisifs qui résument les questions et les commandes. Si la branche aînée revenait, disait-il à un ancien homme d'état septuagénaire, quelle politique trouverait-elle? Seul sur son banc, Berryer ne sait que devenir. S'il avait 60 voix, il entraverait le gouvernement dans bien des occasions et renverserait des ministres. On va nommer le duc de Fitzjames à Toulouse. Vous ferez gagner à M. de Watteville son procès. Si vous votez pour M. de Savarus, les républicains voteront avec vous plutôt que de voter avec les justes milieux, etc., etc. À 9 heures, Albert n'était pas encore venu. Madame de Watteville voulut voir une impertinence dans un pareil retard. « Chère baronne, dit Madame de Chavoncourt, ne faisons pas dépendre d'une vétille de si sérieuses affaires. Quelques bottes vernies qui tardent à sécher. Une consultation retienne peut-être Monsieur de Savarus. » Rosalie regarda Madame de Chavoncourt de travers. « Elle est bien bonne pour Monsieur de Savarus, dit Rosalie tout bas à sa mère. » Mais reprit la baronne en souriant, « il s'agit d'un mariage entre Sidonie et Monsieur de Savarus. » Rosalie alla brusquement vers une croisée qui donnait sur le jardin. À 10 heures, Monsieur de Savarus n'avait pas encore paru. L'orage qui grondait éclata. Quelques nobles se mirent à jouer, trouvant la chose intolérable. L'abbé de Grancey, qui ne savait que penser, alla vers la fenêtre où Rosalie s'était cachée et dit tout haut tant il était stupéfait, « Il doit être mort. » Le vicaire général sortit dans le jardin, suivi de Monsieur de Watteville, de Rosalie, et tous trois ils montèrent sur le kiosque. Tout était fermé chez Albert, aucune lumière ne s'apercevait. « Jérôme !» cria Rosalie en voyant le domestique dans la cour. L'abbé de Grancey regarda Rosalie. « Où donc est votre maître ?» dit Rosalie au domestique, venu au pied du mur. « Parti, en poste, mademoiselle. Il est perdu !» s'écria l'abbé de Grancey. « Ou heureux !» La joie du triomphe ne fut pas si bien étouffée sur la figure de Rosalie qu'elle ne fut devinée par le vicaire général, qui feignit de ne s'apercevoir de rien. « Qu'est-ce que Rosalie a pu faire en ceci ?» se demandait le prêtre. Tous trois, ils rentrèrent dans les salons où Monsieur de Watteville annonça l'étrange, la singulière, l'ébouriffante nouvelle du départ de l'avocat Albert Savaron de Savarus, en poste, sans qu'on sût les motifs de cette disparition. À 11h30, il ne restait plus que 15 personnes, parmi lesquelles se trouvaient Madame de Chavoncourt et l'abbé de Godenard, autre vicaire général, homme d'environ 40 ans, qui voulait être évêque, les deux demoiselles de Chavoncourt et Monsieur de Vauchel, l'abbé de Grancey, Rosalie, Amédée de Soulas, et un ancien magistrat démissionnaire, l'un des plus influents personnages de la haute société de Besançon, qui tenait beaucoup à l'élection d'Albert Savarus. L'abbé de Grancey se mit à côté de la baronne de manière à regarder Rosalie, dont la figure ordinairement pâle offrait alors une coloration fiévreuse. « Que peut-il être arrivé à Monsieur de Savarus ?» dit Madame de Chavoncourt. En ce moment, un domestique en livrée apporta sur un plat d'argent une lettre à l'abbé de Grancey. « Lisez, » dit la baronne. Le vicaire général lut la lettre et vit Rosalie devenir soudain blanche comme son fichu. « Elle reconnaît l'écriture, » se dit-il après avoir jeté sur la jeune fille un regard par-dessus ses lunettes. Il plia la lettre et la mit froidement dans sa poche sans dire un mot. En 3 minutes, il reçut de Rosalie 3 regards qui lui suffirent à tout deviner. « Elle aime Albert Savarus, » pensa le vicaire général. Il se leva, Rosalie reçut une commotion. Il salua, fit quelques pas vers la porte, et dans le second salon, il fut rejoint par Rosalie qui lui dit « Monsieur de Grancey, c'est d'Albert. Comment pouvez-vous assez connaître son écriture pour la distinguer de si loin ?» Cette fille, prise dans l'élan de son impatience et de sa colère, dit un mot que l'abbé trouva sublime. « Parce que je l'aime. Qu'y a-t-il » dit-elle après une pause. « Il renonce à son élection, » répondit l'abbé. Rosalie se mit un doigt sur les lèvres. « Je demande le secret, comme pour une confession, » dit-elle avant de rentrer au salon. « S'il n'y a plus d'élection, il n'y aura plus de mariage avec Sidonie. » Le lendemain matin, Rosalie, en allant à la messe, apprit par Mariette une partie des circonstances qui motivaient la disparition d'Albert au moment le plus critique de sa vie. « Mademoiselle, il est arrivé de Paris dans la matinée, à l'Hôtel National, un vieux monsieur qui avait sa voiture, une belle voiture à 4 chevaux, un courrier en avant et un domestique. Enfin, Jérôme, qui a vu la voiture au départ, prétend que ce ne peut être qu'un prince ou qu'un milord. Y avait-il sur la voiture une couronne fermée, dit Rosalie? Je ne sais pas, dit Mariette. Sur le coup de 2 heures, il est venu chez Monsieur Savarus, en lui faisant remettre sa carte, et en la voyant, monsieur, dit Jérôme, est devenu blanc comme un linge, puis il a dit de faire entrer. Comme il a fermé lui-même sa porte à clé, il est impossible de savoir ce que ce vieux monsieur et l'avocat se sont dit, mais ils sont restés environ 1 heure ensemble, après quoi le vieux monsieur, accompagné de l'avocat, a fait monter son domestique. Jérôme a vu sortir ce domestique avec un immense paquet, long de 4 pieds, qui avait l'air d'une grosse toile à canevas. Le vieux monsieur tenait à la main un gros paquet de papier. L'avocat, plus pâle que s'il allait mourir, lui qui est si fier, si digne, était dans un état à faire pitié. Mais il agissait si respectueusement avec le vieux monsieur qu'il n'aurait pas eu plus d'égard pour le roi. Jérôme et monsieur Albert Savaron ont accompagné ce vieillard jusqu'à sa voiture, qui se trouvait tout attelée de 4 chevaux. Le courrier est parti sur le coup de 3 heures. Monsieur est allé droit à la préfecture, et de là chez monsieur Gentillet, qui lui a vendu la vieille calèche de voyage de feu Madame Saint-Vier, puis il a commandé des chevaux à la poste pour 10 heures. Il est rentré chez lui pour faire ses paquets, sans doute il a écrit plusieurs billets, enfin il a mis ordre à ses affaires avec monsieur Girardet, qui est venu et qui est resté jusqu'à 7 heures. Jérôme a porté un mot chez monsieur Boucher, où monsieur était attendu à dîner. Pour l'heure, à 7h30, L'avocat est parti, laissant 3 mois de gage à Jérôme, et lui disant de chercher une place. Il a laissé ses clés à Monsieur Girardet, qui l'a reconduit chez lui, et chez qui, dit Jérôme, il a pris une soupe, car Monsieur Girardet n'avait pas encore dîné à 7h30. Quand Monsieur Savaron est remonté dans sa voiture, il était comme un mort. Jérôme, qui naturellement a salué son maître, l'a entendu disant au postillon « Route de Genève ». Jérôme a-t-il demandé le nom de l'étranger à l'hôtel national ? Comme le vieux monsieur ne faisait que passer, on ne le lui a pas demandé. Le domestique, par ordre sans doute, avait l'air de ne pas parler français. Et la lettre qu'a reçue si tard l'abbé de Grancey, dit Rosalie ? C'est sans doute monsieur Girardet qui devait la lui remettre. Mais Jérôme dit que ce pauvre monsieur Girardet, qui aime l'avocat Savaron, était tout aussi saisi que lui. Celui qui est venu, avec mystère, s'en va, dit mademoiselle Galard, avec mystère. Rosalie eut à partir de ce récit un air penseur et absorbé, qui fut visible pour tout le monde. Il est inutile de parler du bruit que fit dans Besançon la disparition de l'avocat Savaron. On sut que le préfet s'était prêté de la meilleure grâce du monde à lui expédier à l'instant un passeport pour l'étranger, car il se trouvait ainsi débarrassé de son seul adversaire. Le lendemain, Monsieur de Chavoncourt fut nommé d'emblée à une majorité de 140 voix. « Jean s'en alla comme il était venu, » dit un électeur en apprenant la fuite d'Albert Savaron. Cet événement vint à l'appui des préjugés qui existent à Besançon contre les étrangers et qui, 2 ans auparavant, s'était corroboré à propos de l'affaire du journal républicain. Puis, 10 jours après, il n'était plus question d'Albert de Savarus. 3 personnes seulement, l'avoué Girardet, le vicaire général et Rosalie, étaient gravement affectés par cette disparition. Girardet savait que l'étranger aux cheveux blancs était le prince Soderini, car il avait vu la carte. Il le dit au vicaire général. Mais Rosalie, beaucoup plus instruite qu'eux, connaissait depuis environ 3 mois la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo. Au mois d'avril 1836, personne n'avait eu de nouvelles ni entendu parler de Monsieur Albert de Savarus. Jérôme et Mariette allaient se marier. Mais la baronne avait dit confidentiellement à sa femme de chambre d'attendre le mariage de Rosalie et que les 2 noces se feraient ensemble. « Il est temps de marier Rosalie, » dit un jour la baronne à Monsieur de Vatteville. « Elle a 19 ans, et depuis 2 mois, elle change à faire peur. »« Je ne sais pas ce qu'elle a, » dit le baron. « Quand les pères ne savent pas ce qu'ont leurs filles, les mères le devinent, » dit la baronne. « Il faut la marier. » « Je le veux bien, » dit le baron, « et pour mon compte, je lui donne les Rouxey, maintenant que le tribunal nous a mis d'accord avec la commune des Rissey, en fixant mes limites à 300 mètres à partir de la base de la dent de Villard. On y creuse un fossé pour recevoir toutes les eaux et les diriger dans le lac. La commune n'a pas appelé. Le jugement est définitif. « Vous n'avez pas encore deviné, dit la baronne, que ce jugement me coûte 30 000 francs donnés à Chantonite. Ce paysan ne voulait pas autre chose. Il a l'air d'avoir gain de cause pour sa commune, et il nous a vendu la paix. Si vous donnez les Rouxey, vous n'aurez plus rien, dit la baronne. Je n'ai pas besoin de grand-chose, dit le baron, je m'en vais. Vous mangez comme un ogre. « Précisément, j'ai beau manger, je me sens les jambes de plus en plus faibles. »« C'est de tourner, » dit la baronne. « Je ne sais pas, » dit le baron. « Nous marierons Rosalie à Monsieur de Soulas. Si vous lui donnez les Rouxey, réservez-vous-en la jouissance. Moi, je leur donnerai 24 000 francs de rente sur le grand livre. Nos enfants demeureront ici. Je ne les vois pas bien malheureux. Non, je leur donne les Rouxey tout à fait. » Rosalie aime les Rouxey. Vous êtes singulier avec votre fille. Vous ne me demandez pas à moi si j'aime les Rouxey. Appelée incontinent, Rosalie apprit qu'elle épouserait Monsieur Amédée de Soulas dans les 1er jours du mois de mai. Je vous remercie, ma mère, et vous, mon père, d'avoir pensé à mon établissement. mais je ne veux pas me marier. Je suis très heureuse d'être avec vous. »
Des phrases, dit la baronne. Vous n'aimez pas monsieur de Soulas, voilà tout.
Si vous voulez savoir la vérité, je n'épouserai jamais monsieur de Soulas.
Oh, le jamais d'une fille de 19 ans, reprit la baronne en soupirant avec amertume.
Le jamais de mademoiselle de Vatteville, reprit Rosalie avec un accent prononcé.
Mon père n'a pas, je pense, l'intention de me marier sans mon consentement.
Oh, ma foi non, dit le pauvre baron en regardant sa fille avec tendresse.
Eh bien, répliqua sèchement la baronne en contenant une fureur de dévote, surprise de se voir bravée à l'improviste,
chargez-vous, monsieur de Vatteville, d'établir vous-même votre fille.
Songez-y bien, Rosalie. Si vous ne vous mariez pas à mon gré, vous n'aurez rien de moi pour votre établissement.
La querelle ainsi commencée entre madame de Vatteville et le baron, qui appuyait sa fille, alla si loin que Rosalie et son père furent obligés de passer la belle saison au Rouxey. L'habitation de l'hôtel de Rupt leur était devenue insupportable. On apprit alors dans Besançon que mademoiselle de Vatteville avait positivement refusé monsieur le comte de Soulas. Après leur mariage, Jérôme et Mariette étaient venus au Rouxey pour succéder un jour à Modinier. Le baron répara, restaura la chartreuse au goût de sa fille. En apprenant que cette réparation coûtait environ 60 000 francs, que Rosalie et son père faisaient construire une serre, la baronne reconnut quelque levain de malice dans sa fille. Le baron acheta plusieurs enclaves et un petit domaine d'une valeur de 30 000 francs. On dit à madame de Vatteville que, loin d'elle, Rosalie se montrait une maîtresse-fille. Elle étudiait les moyens de faire valoir les Rouxey, s'était donnée une amazone et montait à cheval. Son père, qu'elle rendait heureux, qui ne se plaignait plus de sa santé, qui devenait gras, l'accompagnait dans ses excursions. Aux approches de la fête de la baronne, qui se nommait Louise, le vicaire général vint alors au Rouxey, sans doute envoyé par madame de Vatteville et par monsieur de Soulas pour négocier la paix entre la mère et la fille. « Cette petite Rosalie a de la tête, » disait-on dans Besançon. Après avoir noblement payé les 90 000 francs dépensés au Rouxey, la baronne faisait passer à son mari 1 000 francs par mois environ pour y vivre. Elle ne voulait pas se donner des torts. Le père et la fille ne demandèrent pas mieux que de retourner, le 15 août, à Besançon, pour y rester jusqu'à la fin du mois. Quand le vicaire général, après le dîner, prit Rosalie à part pour entamer la question du mariage, en lui faisant comprendre qu'il ne fallait plus compter sur Albert, de qui, depuis un an, on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté net par un geste de Rosalie. Cette bizarre fille saisit monsieur de Grancey par le bras et l'amena sur un banc sous un massif de rhododendrons d'où se découvrait le lac. « Écoutez, cher abbé, vous que j'aime autant que mon père, car vous avez de l'affection pour mon Albert, il faut enfin vous l'avouer, j'ai commis des crimes pour être sa femme, et il doit être mon mari. Tenez, lisez. » Elle lui tendit un numéro de gazette qu'elle avait dans la poche de son tablier, en lui indiquant l'article suivant sous la rubrique de Florence, au 25 mai. Le mariage de monsieur le duc de Rhétoré, fils aîné de monsieur le duc de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Soderini, s'est célébré avec beaucoup d'éclat. Des fêtes nombreuses données à l'occasion de ce mariage animent en ce moment la ville de Florence. La fortune de madame la duchesse d'Argaiolo est une des plus considérables de l'Italie, car le feu duc l'avait instituée sa légataire universelle. « Celle qu'il aimait est mariée, dit-elle, je les ai séparées. »«
Vous, et comment ?» dit l'abbé.
Rosalie allait répondre lorsqu'un grand cri jeté par deux jardiniers et précédé du bruit d'un corps tombant à l'eau l'interrompit. Elle se leva, courut en criant « Oh, mon père !» Elle ne voyait plus le baron. En voulant prendre un fragment de granit, où il crut apercevoir l'empreinte d'un coquillage, fait qui eût souffleté quelque système de géologie,
Monsieur de Watteville s'était avancé sur le talus, avait perdu l'équilibre et roulait dans le lac dont la plus grande profondeur se trouvait naturellement au pied de la chaussée. Les jardiniers eurent une peine infinie à faire prendre au baron une perche en fouillant à l'endroit où bouillonnait l'eau. Mais enfin, ils le ramenèrent couvert de vases où il était entré très avant et où il enfonçait davantage en se débattant. Monsieur de Watteville avait beaucoup dîné, sa digestion était commencée, elle fut interrompue. Quand il eut été déshabillé, nettoyé, mis au lit, il fut dans un état si visiblement dangereux que deux domestiques montèrent à cheval, l'un pour Besançon, l'autre pour aller chercher au plus près un médecin et un chirurgien. Quand Madame de Watteville arriva 8 heures après l'événement, avec les premiers chirurgiens et médecins de Besançon, ils trouvèrent Monsieur de Watteville dans un état désespéré, malgré les soins intelligents du médecin des Rissets. La peur déterminait une infiltration séreuse au cerveau. La digestion arrêtée achevait de tuer le pauvre baron. Cette mort qui n'aurait pas eu lieu si, disait Madame de Watteville, son mari était resté à Besançon, fut attribuée par elle à la résistance de sa fille, qu'elle prit en aversion en se livrant à une douleur et à des regrets évidemment exagérés. Elle appela le baron son cher agneau. Le dernier Watteville fut enterré dans un îlot du lac des Rouxets, où la baronne fit élever un petit monument gothique en marbre blanc, pareil à celui dit d'Héloïse au Père Lachaise. Un mois après cet événement, la baronne et sa fille vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauvage silence. Rosalie était en proie à une douleur sérieuse qui ne s'épanchait point au dehors. Elle s'accusait de la mort de son père et soupçonnait un autre malheur encore plus grand à ses yeux, et bien certainement son ouvrage, car ni l'avoué Girardet ni l'abbé de Grancey n'obtenaient de lumière sur le sort d'Albert. Ce silence était effrayant. Dans un paroxysme de repentir, elle éprouva le besoin de révéler au vicaire général les affreuses combinaisons par lesquelles elle avait séparé Francesca d'Albert. Ce fut quelque chose de simple et de formidable. Mademoiselle de Watteville avait supprimé les lettres d'Albert à la duchesse et celles par laquelle Francesca annonçait à son amant la maladie de son mari, en le prévenant qu'elle ne pourrait plus lui répondre pendant le temps qu'elle se consacrerait, comme elle le devait, au moribond. Ainsi, pendant les préoccupations d'Albert relativement aux élections, la duchesse ne lui avait écrit que 2 lettres, celle où elle lui apprenait le danger du duc d'Argaiolo, celle où elle lui disait qu'elle était veuve, 2 nobles et sublimes lettres que Rosalie garda. Après avoir travaillé pendant plusieurs nuits, Rosalie était parvenue à imiter parfaitement l'écriture d'Albert. Aux véritables lettres de cet amant fidèle, elle avait substitué 3 lettres dont les brouillons communiqués au vieux prêtre le firent frémir, tant le génie du mal y apparaissait dans toute sa perfection. Rosalie, tenant la plume pour Albert, y préparait la duchesse au changement du français faussement infidèle. Rosalie avait répondu à la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo par la nouvelle du prochain mariage d'Albert avec elle-même, Rosalie. Les 2 lettres avaient dû se croiser et s'étaient croisées. L'esprit infernal avec lequel les lettres furent écrites surprit tellement le vicaire général qu'il les relut. À la dernière, Francesca, blessée au cœur par une fille qui voulait tuer l'amour chez sa rivale, avait répondu par ces simples mots « Vous êtes libre. Adieu. » Les crimes purement moraux et qui ne laissent aucune prise à la justice humaine sont les plus infâmes, les plus odieux, dit sévèrement l'abbé de Grancey. Dieu les punit souvent ici-bas. Là gît la raison des épouvantables malheurs qui nous paraissent inexplicables. De tous les crimes secrets ensevelis dans les mystères de la vie privée, un des plus déshonorants est celui de briser le cachet d'une lettre ou de la lire subrepticement. Toute personne, quelle qu'elle soit, poussée par quelque raison que ce soit, qui se permet cet acte,
a fait une tâche ineffaçable à sa probité. Sentez-vous tout ce qu'il y a de touchant, de divin dans l'histoire de ce jeune page, faussement accusé, qui porte une lettre où se trouve l'ordre de le tuer, qui se met en route sans une mauvaise pensée, que la Providence prend alors sous sa protection et qu'elle sauve miraculeusement, disons-nous. Savez-vous en quoi consiste le miracle ? Les vertus ont une auréole aussi puissante que celle de l'enfance innocente. Je vous dis ces choses sans vouloir vous admonester, dit le vieux prêtre à Rosalie avec une profonde tristesse. Hélas, je ne suis pas ici le grand pénitencier. Vous n'êtes pas agenouillé aux pieds de Dieu. Je suis un ami terrifié par l'appréhension de vos châtiments. Qu'est-il devenu, ce pauvre Albert ? Ne s'est-il pas donné la mort ? Il cachait une violence inouïe sous son calme affecté. Je comprends que le vieux prince Soderini, père de Madame la Duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les lettres et les portraits de sa fille. Voilà le coup de foudre tombé sur la tête d'Albert, qui aura sans doute essayé d'aller se justifier. Mais comment, en 14 mois, n'a-t-il pas donné de ses nouvelles ? Oh, si je l'épouse, il sera si heureux. Heureux ? Il ne vous aime pas. Vous n'aurez d'ailleurs pas une si grande fortune à lui apporter. Votre mère a la plus profonde aversion pour vous. Vous lui avez fait une sauvage réponse qui l'a blessée et qui vous nuira. Quoi ? Dit Rosalie. Quand elle vous a dit hier que l'obéissance était le seul moyen de réparer vos fautes, et qu'elle vous a rappelé la nécessité de vous marier en vous parlant d'Amédée, « Si vous l'aimez tant, épousez-le, ma mère. Lui avez-vous, oui ou non, jeté cette phrase à la tête ?»« Oui, » dit Rosalie. « Eh bien, je la connais, » reprit Monsieur de Grancey. « Dans quelques mois, elle sera comtesse de Soulas. Elle aura, certes, des enfants. » Elle donnera 40 000 francs de rente à Monsieur de Soulas. En outre, elle lui fera des avantages et réduira votre part dans ses bienfonds autant qu'elle pourra. Vous serez pauvre pendant toute sa vie, et elle n'a que 38 ans. Vous aurez pour tout bien la terre des Rouxey, et le peu de droit que vous laissera la liquidation de la succession de votre père, si toutefois votre mère consent à se départir de ses droits sur les Rouxey. Sous le rapport des intérêts matériels, vous avez déjà bien mal arrangé votre vie. Sous le rapport des sentiments, je la crois bouleversée. Au lieu d'être venue à votre mère... Rosalie fit un sauvage mouvement de tête. À votre mère, reprit le vicaire général, et à la religion qui vous aurait, au premier mouvement de votre cœur, éclairé, conseillé, guidé, vous avez voulu vous conduire seul, ignorant la vie et n'écoutant que la passion. » Ces paroles si sages épouvantèrent Rosalie. « Et que dois-je faire ? » dit-elle après une pause. « Pour réparer vos fautes, il faudrait en connaître l'étendue, » demanda l'abbé. « Eh bien, je vais écrire au seul homme qui puisse avoir des renseignements sur le sort d'Albert, à Monsieur Léopold Hannequin, notaire à Paris, son ami d'enfance. » « N'écrivez plus que pour rendre hommage à la vérité, » répondit le vicaire général. « Confiez-moi les véritables lettres et les fausses. Faites-moi vos aveux bien en détail, comme au directeur de votre conscience, en me demandant les moyens d'expier vos fautes et vous en rapportant à moi-même. Je verrai. Car, avant tout, rendez à ce malheureux son innocence devant l'être de qui il a fait son Dieu sur cette terre. » Même après avoir perdu le bonheur, Albert doit tenir à sa justification. Rosalie promit à l'abbé de Grancey de lui obéir en espérant que cette démarche aurait peut-être pour résultat de lui ramener Albert. Peu de temps après, la confidence de Rosalie, un clerc de M. Léopold Hannequin vint à Besançon, muni d'une procuration générale d'Albert, et se présenta tout d'abord chez M. Girardet, pour le prier de vendre la maison appartenant à M. Savaron. L'avoué se chargea de cette affaire par amitié pour l'avocat. Ce clerc vendit le mobilier et, avec le produit, put payer ce que devait Albert à Girardet, qui, lors de l'inexplicable départ, lui avait remis 5 000 francs, en se chargeant d'ailleurs de ses recouvrements. quand Girardet demanda ce qu'était devenu ce noble et beau lutteur auquel il s'était intéressé, le clerc répondit que son patron seul le savait, et que le notaire avait paru très affligé des choses contenues dans la dernière lettre, écrite par M. Albert de Savarus. En apprenant cette nouvelle, le vicaire général écrivit à Léopold. Voici la réponse du digne notaire. À M. l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon. Paris. Hélas, monsieur, il n'est au pouvoir de personne de rendre Albert à la vie du monde. Il y a renoncé. Il est novice à la grande chartreuse, près Grenoble. Vous savez encore mieux que moi qui viens de l'apprendre que tout meurt sur le seuil de ce cloître. En prévoyant ma visite, Albert a mis le général des Chartreux entre tous nos efforts et lui. Je connais assez ce noble cœur pour savoir qu'il est victime d'une trame odieuse et pour nous invisible, mais tout est consommé. Madame la duchesse d'Argaiolo, maintenant duchesse de Rétoré, me semble avoir poussé la cruauté bien loin. À Belgirate, où elle n'était plus quand Albert y courut, elle avait laissé des ordres pour lui faire croire qu'elle habitait Londres. De Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à Naples, et de Naples à Rome, où elle s'engageait avec le duc de Rétoré. Quand Albert put rencontrer Madame d'Argaiolo, ce fut à Florence, au moment où elle célébrait son mariage. Notre pauvre ami s'est évanoui dans l'église, et n'a jamais pu, même en se trouvant en danger de mort, obtenir une explication de cette femme, qui devait avoir je ne sais quoi dans le cœur. Albert a voyagé pendant 7 mois à la recherche d'une sauvage créature qui se faisait un jeu de lui échapper. Il ne savait tout ni comment la saisir. J'ai vu notre pauvre ami à son passage à Paris, et si vous l'aviez vu comme moi, vous vous seriez aperçu qu'il ne lui fallait pas dire un mot au sujet de la duchesse, à moins de vouloir provoquer une crise où sa raison eût couru des risques. S'il avait connu son crime, il aurait pu trouver des mots de justification, mais faussement accusé de s'être marié, que faire? Albert est mort et bien mort pour le monde. Il a voulu le repos. Espérons que le profond silence et la prière, dans lesquels il s'est jeté, feront son bonheur sous une autre forme. Si vous l'avez connu, monsieur, vous devez bien le plaindre et plaindre aussi ses amis, agréés, etc. Aussitôt cette lettre reçue, le bon vicaire général écrivit aux généraux des Chartreux, et voici quelle fut la réponse d'Albert Savarus. Le frère Albert à monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon. De la grande chartreuse. J'ai reconnu, cher et bien-aimé vicaire général, votre âme tendre et votre cœur encore jeune, dans tout ce que vient de me communiquer le révérend père général de notre ordre. Vous avez deviné le seul vœu qui resta dans le dernier repli de mon cœur, relativement aux choses du monde. Faire rendre justice à mes sentiments par celle qui m'a si maltraité. Mais en me laissant la liberté d'user de votre offre, le général a voulu savoir si ma vocation était sûre. Il a eu l'insigne bonté de me dire sa pensée, en me voyant décidé à demeurer dans un absolu silence à cet égard. Si j'avais cédé à la tentation de réhabiliter l'homme du monde, le religieux était rejeté de ce monastère. La grâce a certainement agi, mais pour avoir été court, le combat n'en a pas été moins vif ni moins cruel. N'est-ce pas vous dire assez que je ne saurais rentrer dans le monde? Aussi, le pardon que vous me demandez pour l'auteur de tant de maux est-il bien entier et sans une pensée de dépit? Je prierai Dieu qu'il veuille pardonner à cette demoiselle comme je lui pardonne, de même que je le prierai d'accorder une vie heureuse à Madame de Rétoré. Et que ce soit la mort ou la main opiniâtre du jeune fille acharnée à se faire aimer, que ce soit un de ces coups attribués au hasard, ne faut-il pas toujours obéir à Dieu? Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. J'ai trop tard connu les rapports entre cette vie et celle qui nous attend, car tout est usé chez moi. Je n'aurais pu servir dans les rangs de l'Église militante. Je me jette pour le reste d'une vie presque éteinte au pied du sanctuaire. Voici la dernière fois que j'écris. Il a fallu que ce fût vous qui m'aimiez et que j'aimais tant pour me faire rompre la loi d'oubli que je me suis imposée en entrant dans la métropole de Saint-Bruno. Vous serez aussi, vous, particulièrement dans les prières de Frère Albert. Novembre 1836. Peut-être tout est-il pour le mieux, se dit l'abbé de Grancey. Quand il eut communiqué cette lettre à Rosalie, qui baisa par un mouvement pieux le passage qui contenait sa grâce, il lui dit « Eh bien, maintenant qu'il est perdu pour vous, ne voulez-vous pas vous réconcilier avec votre mère en épousant le comte de Soulas ?»« Il faudrait qu'Albert me l'ordonnât, dit-elle. Vous voyez qu'il est impossible de le consulter. Le général ne le permettrait pas. Si j'allais le voir, on ne voit point les Chartreux. Et d'ailleurs, aucune femme, excepté la reine de France, ne peut entrer à la Chartreuse, dit l'abbé. Ainsi, rien ne vous dispense plus d'épouser le jeune monsieur de Soulas. Je ne veux pas faire le malheur de ma mère, répondit Rosalie. Satan, s'écria le vicaire général. Vers la fin de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey mourut. Il n'y eut plus entre madame de Watteville et sa fille cet ami qui s'interposait entre ces deux caractères de fer. L'événement prévu par le vicaire général eut lieu. Au mois d'août 1837, madame de Watteville épousa monsieur de Soulas à Paris, où elle alla par le conseil de Rosalie, qui se montra charmante et bonne pour sa mère. Madame de Watteville crut à l'amitié de sa fille, mais Rosalie voulait tout bonnement voir Paris pour se donner le plaisir d'une atroce vengeance. Elle ne pensait qu'à venger Savarus en martyrisant sa rivale. On avait émancipé mademoiselle de Watteville, qui d'ailleurs atteignait bientôt à l'âge de 21 ans. Sa mère, pour terminer ses comptes avec elle, lui avait abandonné ses droits sur les Rouxey, et la fille avait donné des charges à sa mère à raison de la succession du baron de Watteville. Rosalie avait encouragé sa mère à épouser le comte de Soulas et à l'avantager. « Ayons chacune notre liberté, lui dit-elle. » Madame de Soulas, inquiète des intentions de sa fille, fut surprise de cette noblesse de procédé. Elle fit présent à Rosalie de 6 000 francs de rente sur le grand livre, par acquis de conscience. Comme madame la comtesse de Soulas avait 48 000 francs de revenus en terre et qu'elle était incapable de les aliéner dans le but de diminuer la part de Rosalie, mademoiselle de Watteville était encore un parti de 1 800 000 francs. Les Rouxey pouvaient produire, avec quelques améliorations, 20 000 francs de rente, outre les avantages de l'habitation, ses redevances et ses réserves. Aussi Rosalie et sa mère, qui prirent bientôt le ton et les modes de Paris, furent-elles facilement introduites dans le grand monde. La clé d'or, ces mots, 1 800 000 francs, brodés sur le corsage de Rosalie, servirent beaucoup plus la comtesse de Soulas que ses prétentions à la de Rupte, ses fiertés mal placées, et même que ses parentés tirées d'un peu loin. Vers le mois de février 1838, Rosalie, à qui bien des jeunes gens faisaient une cour assidue, réalisa le projet qui la menait à Paris. Elle voulait rencontrer la duchesse de Rhétoré, voir cette merveilleuse femme, et la plonger dans d'éternels remords. Aussi, Rosalie était-elle d'une recherche et d'une coquetterie étourdissantes, afin de se trouver avec la duchesse sur un pied d'égalité. La première rencontre eut lieu dans le bal annuellement donné pour les pensionnaires de l'ancienne liste civile depuis 1830. Un jeune homme, poussé par Rosalie, dit à la duchesse en la lui montrant « Voilà l'une des jeunes personnes les plus remarquables, une forte tête. Elle a fait jeter dans un cloître à la grande chartreuse un homme d'une grande portée, Albert de Savarus, dont l'existence a été brisée par elle. C'est mademoiselle de Watteville, la fameuse héritière de Besançon. » La duchesse pâlit. Rosalie échangea vivement avec elle un de ces regards qui, de femme à femme, sont plus mortels que les coups de pistolet d'un duel. Francesca Soderini, qui soupçonna l'innocence d'Albert, sortit aussitôt du bal en quittant brusquement son interlocuteur incapable de deviner la terrible blessure qu'il venait de faire à la belle duchesse de Rhétoré. Si vous voulez en savoir davantage sur Albert, venez au bal de l'Opéra mardi prochain en tenant à la main un souci. Ce billet anonyme envoyé par Rosalie à la duchesse amena la malheureuse Italienne au bal où Rosalie lui remit en main toutes les lettres d'Albert, celles écrites par le vicaire général à Léopold Hannequin, ainsi que la réponse du notaire, et même celle où elle avait fait ses aveux à Monsieur de Grancey. Je ne veux pas être seul à souffrir, car nous avons été tout aussi cruelles l'une que l'autre, dit-elle à sa rivale. Après avoir savouré la stupéfaction qui se peignit sur le beau visage de la duchesse, Rosalie se sauva, ne reparut plus dans le monde, et revint avec sa mère à Besançon. Mademoiselle de Watteville, qui vit seule dans ses terres des Rouxey, montant à cheval, chassant, refusant ses deux ou trois parties par an, venant quatre ou cinq fois par hiver à Besançon, occupée à faire valoir sa terre, passe pour une personne extrêmement originale. Elle est une des célébrités de l'Est. Madame de Soulas a deux enfants, un garçon et une fille. Elle a rajeuni. Mais le jeune monsieur de Soulas a considérablement vieilli. Ma fortune me coûte cher, disait-il au jeune Chavoncourt. Pour bien connaître une dévote, il faut malheureusement l'épouser. Mademoiselle de Watteville se conduit en fille vraiment extraordinaire. On dit d'elle, elle a des lubies. Elle va tous les ans voir les murailles de la grande Chartreuse. Peut-être veut-elle imiter son grand-oncle en franchissant l'enceinte de ce couvent pour y chercher son mari, comme Watteville franchit les murs de son monastère pour recouvrer la liberté. En 1841, elle quitta Besançon dans l'intention, disait-on, de se marier. Mais on ne sait pas encore la véritable cause de ce voyage, d'où elle est revenue dans un état qui lui interdit de jamais reparaître dans le monde. Par un de ces hasards auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait allusion, elle s'est trouvée sur la Loire dans ce bateau à vapeur dont la chaudière fit explosion. Mademoiselle de Watteville fut si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le bras droit et la jambe gauche. Son visage porte d'affreuses cicatrices qui la privent de sa beauté. Sa santé soumise à des troubles horribles lui laisse peu de jours sans souffrance. Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la Chartreuse des Rouxey, où elle mène une vie entièrement vouée à des pratiques religieuses. Paris, mai 1842.